Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Corentin Mansois et Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon et Maïder Gérard, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jean Frédérics. Dernier volet de notre série consacrée à l'aviation, après avoir parlé de la sécurité aérienne, puis des pistes pour limiter l'impact environnemental du trafic aérien, intéressons-nous ce matin au cas des aéroports. Alors que la privatisation d'Aéroports de Paris est au cœur des débats depuis plusieurs semaines, Aéroports, le grand marché, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Qu'est-ce que c'est qu'un aéroport aujourd'hui? Est-ce que c'est un actif stratégique ou est-ce que c'est au fond, excusez-moi l'expression, un centre commercial? Ben, je pense que c'est plutôt la deuxième et qu'on peut même séparer l'aspect créneau de vol et qu'un bon gestionnaire d'aéroport, c'est pas forcément l'État.
Je veux dire très clairement aux Français qui nous écoutent que oui, la puissance publique, l'État gardera la dernière main et le contrôle sur le choix de l'investisseur principal dans l'aéroport de Paris.
Pour moi, même le peuple de droite, il est d'accord pour dire son mot là-dessus. À la fin, peut-être qu'ils voteront pour le oui à la privatisation d'ADP, mais si on demande aux gens aujourd'hui, est-ce que vous voulez avoir davantage votre mot à dire dans les affaires publiques ou pas, massivement, ils répondent oui, et indépendamment des appartenances partisanes.
Voilà, on entendait à l'instant Geoffroy Roux-de-Bézieux, Bruno Le Maire, également François Ruffin. Le 14 mars dernier, les députés votaient l'article 44 de la loi Pacte permettant d'engager la privatisation d'Aéroports de Paris, actuellement détenu à 50,6% par l'État. Ardemment défendu par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, l'article a provoqué l'ire de l'opposition qui reproche à l'exécutif de vouloir vendre un actif rentable et stratégique pour l'État. Des bijoux de famille, en somme, portés par une insolite coalition qui va du Rassemblement National aux communistes, en passant par les socialistes, la France Insoumise et même les Républicains, une demande de référendum d'initiative partagée a été validée par le Conseil constitutionnel. 4,7 millions d'électeurs doivent désormais la signer d'ici le 12 mars 2020 pour espérer convoquer un référendum sur l'avenir d'ADP. Dans l'ombre, plusieurs acteurs s'affairent pour récupérer la poule aux œufs d'or. Parmi eux se trouve le groupe Vinci, qui voit en cette acquisition l'occasion de passer premier opérateur aéroportuaire mondial, lui qui dispose déjà de concessions dans 12 pays. Alors combien vaut un aéroport et est-ce un actif rentable pour un État? Quelle politique publique sert-il? La tendance mondiale à la privatisation des aéroports augure-t-elle d'une meilleure gestion? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, Charlotte Alperne est notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheuse au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po, une spécialiste de l'action publique comparée. À nos côtés, en duplex de Nice, Frédéric Marty, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes vous chargée de recherche au CNRS et à l'Université Côte d'Azur. Alors, ce référendum d'initiative partagée que j'évoquais, il est soutenu par une coalition, c'est vrai, assez transpartisane, avec des députés d'un certain nombre de partis, même si c'est vrai que quand même la gauche est particulièrement engagée. C'est la première fois que cette procédure de RIP, de référendum d'initiative partagée, est utilisée depuis son introduction dans la Constitution en 2008. Que vous inspire, on va commencer avec vous Charlotte Alperne, que vous inspirent les réactions politiques suite à ce projet de privatisation? Qu'est-ce que ça vous semble révéler de ce que représente au fond ADP et peut-être plus généralement les aéroports, pour nos politiques et puis plus largement pour l'opinion?
Alors, bon, c'est vrai que commencer par parler de ce référendum d'initiative partagée, je pense qu'il faut le voir de deux manières différentes. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Il y a tout d'abord un effet de contexte qui est propre à l'état de la politique française aujourd'hui, et qui n'a pas forcément à voir avec les aéroports, mais qui fait partie du jeu institutionnel et politique en ce moment entre une assemblée, le Parlement, et l'Assemblée nationale, et puis l'exécutif, et puis par ailleurs une opposition qui se structure malaisément, très fragmentée vis-à-vis de la politique d'LR.
Donc cette première, ça, c'est pour le première contexte aspect, national.
Contexte national. Et puis il y en a un deuxième qui est peut-être plus propre à cette question aéroportuaire et qui tient sans doute à la manière dont on a mené les grandes décisions sur la politique aéroportuaire de la France. Elle est très peu débattue au Parlement. Il y a eu un grand débat en 2005 au moment de la première loi sur l'ouverture, enfin le changement de statut d'aéroport de Paris. Mais c'est extrêmement rare par rapport à d'autres pays européens, par exemple les Pays-Bas où on en débat assez régulièrement, par rapport à l'Allemagne où ça fait l'objet véritablement d'un débat au Parlement, l'avenir de ces actifs stratégiques fait partie d'un débat. Et donc, je pense que c'est assez significatif de cette demande-là. Donc, finalement, cette opportunité du référendum d'initiative partagée, ben, c'est un moyen pour les parlementaires de se saisir d'un enjeu sur lequel ils ont eu relativement peu de possibilité de s'exprimer jusqu'à maintenant.
Les parlementaires et en réalité l'ensemble des citoyens, puisqu'on va peut-être consulter si référendum il y a. Frédéric Marty, que vous inspire aussi ce référendum? Vous êtes d'accord pour dire que finalement c'est une question qui n'était pas tellement sur la table dans le débat public et voilà une manière de le remettre justement au cœur du débat?
Tout à fait. C'est une question qui a longtemps été ramenée à une question purement technique d'organisation optimale d'un service. C'est-à-dire il y avait eu un premier débat sur la transformation d'Aéroports de Paris en société anonyme, puis le débat autour de la loi de 2005 pour les aéroports régionaux qui était transformé sous forme de concession. Et on a vu simplement aux alentours de la loi Macron en 2015 des débats sur l'évolution du tour de table des aéroports de Toulouse, de Lyon et de Nice. Et d'une certaine façon, avec le cas d'Aéroports de Paris, bien revient, enfin, si je puis m'exprimer ainsi, la question de savoir comment on veut gérer ces actifs que sont les aéroports, qui sont à la fois des actifs stratégiques, mais aussi, j'allais dire, des entreprises qui ont une activité purement économique, une activité de marché.
Alors, je vais peut-être m'arrêter là sur un terme que vous avez utilisé déjà, et l'un et l'autre. Je précise pour nos auditeurs, sur ce référendum d'initiative partagée, il faut qu'il recueille 4,7 millions de signatures. Ensuite, le Parlement a 6 mois pour organiser un référendum, et s'il ne le fait pas, c'est au président de le faire. Mais vous parlez d'un enjeu stratégique. C'est vrai que dans ce débat, les opposants à la privatisation utilisent cette idée-là que, au fond, les infrastructures aéroportuaires sont des équipements stratégiques. Mais jusqu'où cet argument est-il réellement recevable? Est-ce qu'aujourd'hui, les aéroports ne sont pas surtout, comme le disait tout à l'heure Geoffroy Roux-de-Bézieux, des lieux de production de richesses, des centres commerciaux? En quoi est-ce qu'ils sont des lieux stratégiques pour les États aujourd'hui? Frédéric Marty et ensuite Charlotte Alperne.
Clairement, c'est-à-dire le débat est vraiment posé sur ce point-là. Et d'une certaine façon, à l'origine, les aéroports avaient une finalité purement militaire. C'était le cas dans les années 20, dans les années 30. Puis, peu à peu, leur statut a changé, notamment du fait de l'importance croissante, et Geoffroy Roux-de-Bézieux le soulignait, des activités commerciales au sein des aéroports. C'est-à-dire un aéroport majeur à l'heure actuelle, par exemple Aéroports de Paris, mais aussi ses concurrents, tirent plus de la moitié de leurs revenus d'activités qui sont des activités non aéronautiques. C'est-à-dire, en gros, un aéroport a deux types de recettes. Des recettes aéronautiques, ce sont les redevances aéroportuaires que vont régler les compagnies aériennes, mais aussi ce qu'on appelle des recettes commerciales, qui sont liées au parking, qui sont liées aux concessions commerciales, ainsi de suite. Donc, en réalité, la nature de l'aéroport n'est plus simplement une nature, j'allais dire, d'infrastructure publique pure, mais une nature duale, dans laquelle on va mixer des activités aéroportuaire et des activités de marché. Et c'est vrai que l'interaction ou l'équilibre public-privé peut être considéré à ses tonnes. Cependant, il y a un point peut-être sur lequel il faut bien insister, parce que les termes sont parfois trompeurs, on a tendance à parler de privatisation de l'aéroport. Or, à l'espèce, on est plus dans un passage, dans une société qui est déjà, j'allais dire, organisée sous forme avec des participations du privé qui sont déjà présentes. C'est le cas déjà de Vinci.
Mais elles sont minoritaires.
C'est le cas, elles sont minoritaires, ouais. Mais qui passeraient majoritaires. Donc, d'une certaine façon, on a une évolution du statut public-privé de cet aéroport, mais sous le régime de la concession, qui fait que les biens sont appelés à terme, enfin l'infrastructure en l'occurrence, est appelé à terme à revenir de le gérant de l'État. Alors ce terme est un long terme, bien évidemment.
70 ans, ça fait beaucoup. Voilà. Et par ailleurs, une fois que vous n'êtes plus majoritaire, vous n'avez plus la main sur la gouvernance.
Alors oui et non. C'est-à-dire, d'une certaine façon, la gouvernance est privée, bien évidemment, mais l'aéroport est régulé. Et en France, on a une régulation aéroportuaire qui a connu de grands changements ces dernières années. Classiquement, on a 3 types d'aéroports en matière de régulation. Des aéroports avec moins de 5 000 passagers par an sont gérés, j'allais dire, par le préfet. C'est-à-dire la régulation est une régulation qui est le fait des services déconcentrés de l'État. Au-delà de 5 000 passagers et en dessous de 5 millions de passagers, c'est la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui va réguler les aéroports. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà de 5 millions de passagers, ce qui est le cas de Nice, de Toulouse, de Nantes, de Lyon, de Mulhouse et de Paris, on a une autorité indépendante de régulation, l'ASI, l'agence de supervision indépendante qui va réguler les aéroports dans le cadre de CREU, de contrat de régulation économique. Et donc l'État, s'il joue réellement son rôle de régulateur, n'abdique pas toutes ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il a la capacité de peser sur la gestion.
Oui, mais entre la capacité et l'effectivité, il y a un part. Il pèse au moment de la cessation de ses parts. C'est-à-dire qu'effectivement, il vend à condition qu'un certain nombre de règles soient respectées et c'est à lui de définir justement ce cadre. Mais on va y revenir. Charlotte Alpern, sur cette idée que les aéroports seraient aujourd'hui des objets stratégiques. C'est pas quelque chose qu'on peut balayer comme ça d'un revers de manche. C'est une vraie question qui se pose là. Est-ce que, par exemple, la question de la gestion des frontières, je parle de ça parce que, évidemment, c'est quelque chose qui préoccupe particulièrement aujourd'hui les États de l'Union européenne. Est-ce que, par exemple, il y aurait quelques inquiétudes à avoir dans le cas où l'État confierait justement cette concession à un acteur privé s'agissant de cette gestion des frontières, par exemple?
Alors, cette notion d'actif stratégique, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'il ne faut pas tellement aller voir du côté de l'État français sur la manière dont elle est définie, parce que c'est vrai que le débat s'est beaucoup polarisé ces derniers mois sur la question publique-privée, d'une manière assez, quasiment idéologique finalement, mais sans véritablement parler de ce qu'on voulait faire de cet aéroport. Comment est-ce qu'on veut le gérer? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Quel est son rôle du point de vue des différents enjeux économiques, politiques et d'aménagement du territoire qui sont ceux de la France aujourd'hui? C'est peut-être plutôt du côté de la Commission européenne qu'on peut aller voir, et notamment en 2016-2017, il y a eu toute une série de production de la Commission sur ce que sont au sens large les actifs stratégiques des États européens, en tout cas de l'Union européenne dans son ensemble. Parmi ces actifs stratégiques, on trouve des infrastructures comme les aéroports, comme les ports, justement parce qu'il y a cet enjeu, par exemple, de contrôle des frontières, parce que c'est l'interface monde territoire national en termes de commerce, de marchandises, d'ouverture sur c'est une porte de la mondialisation finalement, d'entrée du fret des passagers. Ça permet de disposer sur son territoire d'une porte d'entrée qui va permettre de relayer vers le territoire national des touristes, des gens qui viennent pour tout type d'activité.
Mais une fois qu'on a dit ça, on comprend bien. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que l'Union européenne se dit effectivement attention sur les ports et les aéroports par exemple, attention à la privatisation, il ne faut pas y aller, ou est-ce qu'au contraire, elle pousse les États à le faire? Parce que sur le constat, on est tous d'accord. Bien sûr, c'est des portes d'entrée, donc bien sûr, c'est stratégique.
Oui, enfin, ça n'a pas empêché. Mais disons que ça résout pas. C'est pas parce que c'est stratégique.
Bien sûr. Mais que conseille l'Union européenne? Alors,
l'Union européenne ne se prononce pas sur la question de la privatisation. C'est pas ça. C'est plutôt de savoir à qui est-ce qu'on privatise, comment est-ce qu'on le fait, et quels sont les mécanismes de contrôle dont on se dote pour s'assurer que ces missions régaliennes, qui sont celles d'un opérateur aéroportuaire pour son volet contrôle des frontières, par exemple, mais il y en a d'autres aussi, soient assurées dans de bonnes conditions. Et l'un des enjeux, évidemment, du point de vue de la Commission européenne, c'est pas tellement la question du public-privé, c'est plutôt à qui est-ce qu'on vend, et c'est notamment la question de la prise de participation par des fonds d'investissement, par exemple, qui viendraient de Chine, qui pourraient venir de Russie ou qui viendraient des États du Golfe. Donc c'est à cette destination-là. Et donc ce ne sont pas les seuls, on va retrouver aussi les nouvelles technologies, on va retrouver les biotechnologies, on va retrouver d'autres secteurs qui sont... Et du côté de ce fait de l'État français, en revanche, moi je suis frappée finalement par le peu de mise en débat qu'il y a eu autour de cette dimension d'un actif stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire que d'un aéroport comme étant un actif stratégique? Est-ce que ça mérite qu'il y ait un débat spécifique au sein de l'Agence des participations de l'État, ou est-ce qu'au contraire c'est un actif parmi d'autres et qui de ce fait ne mérite pas qu'on s'y attarde davantage? Et c'est peut-être autour de cela notamment que l'on aurait pu s'attendre à davantage de débats et de discussions sur cet enjeu.
Peut-être qu'il viendra d'ailleurs. Le mobile économique, Frédéric Marty, l'argument de l'exécutif, c'est de dire que l'argent issu de la cession des parts d'ADP servira à financer un grand fonds pour l'innovation et pour l'industrie. Or, il y a un récent rapport de la Cour des comptes qui explique que ce fonds alimenté par les 10 milliards d'euros issus de la privatisation est une mécanique, je cite, complexe et injustifiée, et que finalement les 10 milliards récoltés seront stockés sur un compte, que seuls les intérêts des placements seront utilisés pour des projets d'innovation, c'est-à-dire à peu près 250 millions d'euros chaque année, et au final, le contrôleur des comptes considère que cette opération n'est pas indispensable pour ne dégager que, je mets des guillemets, 250 millions d'euros. Alors comment comprendre la logique économique de cette vente? Finalement, pourquoi le gouvernement veut céder ses parts?
La logique économique est double. Il y a un aspect, j'allais dire, de budgétaire, un aspect d'efficacité. Si vous voulez, on va commencer par l'aspect budgétaire, parce que c'est celui que met en exergue la Cour des comptes. Sur l'aspect budgétaire, on est vraiment dans le cadre d'un État, je mets des guillemets quand je dis ça, d'un État rentier, c'est-à-dire un État qui a un portefeuille de participation avec Renault, PSA, Safran, Aéroport de Paris, et qui, à des fins de désendettement ou à des fins d'abondement de fonds pour l'innovation de l'industrie, va gérer au mieux ses actifs. Et à ce titre-là, on pourrait dire que Aéroports de Paris rapporte chaque année à l'État des dividendes. C'est une entreprise qui est tout à fait rentable, on pourrait y revenir.
Mais attendez, combien? Allons-y tout de suite, combien? Pour ADP, alors, par exemple, puisqu'on nous dit que ça va dégager 250 millions en 4 sessions. Aujourd'hui, ça rapporte combien?
Pour ADP, voilà, c'est ça. C'est,
combien?
C'est la deuxième.
610 millions.
C'est ça.
Exactement.
Voilà, bénéfice net. Et en valeur, un portefeuille, ADP est la deuxième participation de l'État. Alors, ça représente un peu moins de 10 milliards d'euros. C'est la deuxième après Électricité de France. Mais donc, il y a un peu cet arbitrage qui est de savoir est-ce que, d'une certaine façon, on garde cet actif en portefeuille et il va nous rapporter des dividendes chaque année, ou est-ce qu'on le cède à un tiers? Et là, c'est, j'allais dire, on oublie la partie stratégique de la question. On gère un portefeuille d'actifs. Et là, c'est un arbitrage économique qui peut se justifier. C'est un problème de choix public. Est-ce qu'on préfère bénéficier d'un dividende annuel, ou est-ce qu'on préfère, si on a cette priorité budgétaire-là, se doter d'un fonds? Ça, c'est vraiment cette première question de priorité budgétaire. Il y en a une deuxième, hein, c'est la Cour des comptes le souligne à juste escient, c'est de savoir ensuite, est-ce que ce fonds, donc le Fonds pour l'innovation de l'industrie, permettra de le financement de nouvelles technologies? Est-ce que c'est la meilleure solution au point de vue financier? Est-ce que l'État pourra cibler des priorités efficacement? Et c'est vrai que là se pose une question d'usage des fonds. Mais c'est vrai que, pour revenir, on en parlait tout à l'heure, sur la dimension publique-privée, la dimension économique pour l'État n'est pas simplement une dimension, j'allais dire, purement budgétaire. Elle peut être aussi une dimension de recherche d'efficacité. Peut-être que l'État considère que le privé peut gérer mieux que lui un aéroport.
Alors on verra,
là,
on verra.
C'est un autre débat.
Si, on verra, on le posera tout à l'heure. On verra effectivement, voilà, à l'aune des expériences passées ici en France et peut-être aussi à l'étranger, si on peut dire qu'effectivement, lorsque ça passe dans le giron d'une société privée, on est dans une situation de meilleure gestion. Charlotte Alberne, sur cette question du mobile économique du gouvernement, finalement, pourquoi est-ce que le gouvernement vend ses parts? Est-ce qu'il y a peut-être aussi d'autres choses qu'on n'imagine pas, qui seraient derrière et qui seraient en jeu? Et donc là, je voudrais vous entendre là-dessus.
Je crois qu'il n'y a pas de suspicion de grand complot à avoir, enfin, en tout cas sur la question. Enfin, là-dessus, les prises
non,
de parole.
Il n'est pas question forcément de complot, mais il est question aussi de regarder ce qu'il y a derrière Aéroports de Paris. Il y a évidemment des aéroports, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a un capital foncier qui est considérable. Je crois que c'est plus de 6000 hectares, ouais, dont quelques centaines, 400 ou 500 hectares, qui sont des fonciers qui sont aujourd'hui non utilisés, qui pourraient peut-être devenir quelque chose d'autre et être utilisé. Enfin, il n'y a pas seulement des aéroports derrière ADP. C'est aussi ça qu'il faut dire. Parce que quand on regarde combien ça vaut, il faut regarder ce qu'il y a derrière.
Mais tout à fait. C'est à peu près 25 000 employés sur la plateforme. C'est l'un des premiers, des 10 premiers employeurs de France. Enfin, voilà, il y a toute une série de choses derrière. Et c'est en cela, je trouve, que cette focalisation sur le débat entre public et privé ne me paraît pas refléter finalement la complexité, en tout cas la multidimensionnalité des enjeux que soulève cette transformation des actifs d'ADP. Le premier élément que je voudrais mettre en avant, c'est tout d'abord
Alors, c'est pas grave, vous allez retrouver le fil. Frédéric Marty, sur cette question du prix d'ADP, aujourd'hui, parce que pour savoir combien on va vendre ses parts, il faut savoir combien vaut ADP. Est-ce qu'on peut répondre à cette question? La valeur d'ADP, c'est quoi?
Non, alors, on peut peut-être répondre, mais je serais bien en peine pour vous donner...
Vous n'êtes pas le seul, hein, tout le monde est bien en peine.
Un chiffre bien réel. Je dirais un peu, ça sera la valeur qui résultera, j'allais dire, de la concurrence pour le marché, c'est-à-dire combien les investisseurs seront capables de proposer, en fin de compte, si on a plusieurs entreprises qui demandent à racheter les parts. Si la concurrence est suffisamment large, on pourra avoir un prix plus ou moins élevé.
Sauf que c'est pas le cas aujourd'hui, Frédéric Marty. Il n'y a qu'un seul repreneur potentiel, c'est Vinci.
Eh oui, non, mais alors je ne peux pas vous dire.
Officiellement.
Je ne sais pas quel sera le résultat. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, et ça rejoint ce que disait ma collègue précédemment, quand on pense au caractère stratégique de l'actif, c'est vrai qu'il y a ces réserves foncières, il y a toutes ces opérations qui peuvent être derrière, mais il y a aussi un autre argument qui est très important et qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la question de l'importance d'ADP, c'est-à-dire pour l'attractivité territoriale de l'Île-de-France, parce que c'est un point d'entrée, c'est un hub, c'est un point d'interconnexion qui est très important. et aussi, j'allais dire, l'articulation entre Air France et Aéroports de Paris. Mmh. Air France en hub secondaire Amsterdam, mais d'une certaine façon, le fait qu'ADP soit bien géré, le fait qu'ADP soit efficace, peut aussi compter, j'allais dire, pour la performance d'Air France. De la même façon, hein, on pourrait très bien imaginer que la privatisation rendrait les choses plus difficiles pour Air France. Mais c'est vrai qu'il y a tout cet écosystème très large qui est à prendre en considération, qui est aussi un écosystème avec les transporteurs aériens.
Charlotte Albert, vous avez retrouvé le fil.
J'ai retrouvé le fil. Allez. Et mon souple. Alors, donc pour revenir à l'action que vous me posez, donc je pense que sur cette question d'actifs, il y a tout d'abord ce qui a été fait, par exemple, il y a une dizaine d'années avec les autoroutes, qui est toujours la comparaison qu'on fait.
Alors, justement, faisons là cette comparaison, parce qu'effectivement, on dit toujours, regardez ce qu'on a fait avec les autoroutes, on s'est trompé, tirons les leçons de tout ça.
Mais c'est finalement vendre pour résorber une partie de la dette. Alors. C'est une manière de prendre la question, et je suis pas en train de dire qu'elle n'est pas essentielle, ou en tout cas pas importante pour ce gouvernement et les différents gouvernements qui se sont succédés depuis, mais c'est une des manières de concevoir la façon dont on va placer les fonds qui vont pouvoir être dégagés. La deuxième question qui se pose, à mon sens, davantage c'est la question de public privé et de qu'est-ce qu'on fait de cet argent, c'est en lien avec le contrat de régulation dont parlait tout à l'heure Frédéric Marty. La question n'est pas tellement de savoir qu'est-ce qui va être généré, mais où est-ce qu'on va le placer ? Alors, il y a le fameux fonds que vous avez évoqué, mais de manière plus générale, on voit bien qu'aujourd'hui, dans ces aéroports qui sont soit gérés uniquement par le public, soit gérés de manière mixte, soit gérés de manière privée, ces contrats de régulation économique envisagent finalement deux manières de traiter, d'utiliser ces bénéfices. Pour une partie, ça peut être réinvesti, dans le maintien des infrastructures, dans leur développement, dans leur modernisation, dans leur expansion. C'est une des manières de le faire. Et puis, une deuxième manière de le faire, c'est finalement de permettre à l'opérateur de le rendre à ses actionnaires, par exemple. Et ça, c'est un deuxième volet. C'est ce qu'on a vu, par exemple, se développer de manière extrêmement offensive, en tout cas la plus exacerbée possible en Grande-Bretagne, suite à la privatisation des aéroports, notamment de Londres, par Margaret Thatcher en 1986. Et ça a conduit progressivement à une baisse, en tout cas dans la capacité et le niveau d'investissement dans ces infrastructures privées. Et du coup, à partir de 2006-2008, les contrats de régulation économique, et notamment après la revente à un portefeuille d'actifs société espagnole qui est toujours propriétaire aujourd'hui de l'aéroport de Heathrow, a permis de maintenir, par exemple, un niveau minimum d'investissement dans les infrastructures.
Donc, en l'occurrence, ce groupe-là s'appelle Ferrovial, le groupe espagnol, qui détient la société, le groupe en fait qui possède l'aéroport de Heathrow.
Et donc cette question des contrats de régulation économique, c'est finalement une sous-question du débat entre public et privé. C'est-à-dire qu'au-delà de la question statut, et on voit qu'au niveau international, on a ces trois grands types de gouvernance, complètement public-privé ou privé, on a une deuxième question qui est celle des contrats de régulation économique et de comment est-ce qu'on rémunère finalement son actionnaire ou son infrastructure finalement, et où va ce financement. Et dans cette question du réinvestissement dans la plateforme, dans les infrastructures, se pose aussi la question des réserves foncières, se pose aussi la manière dont on va gérer les actifs à l'échelle de l'entreprise qui gère les aéroports et qui peut de ce fait faire des choix extrêmement différents, investir dans le foncier, investir dans des nouvelles technologies comme le fait Fraport par exemple, investir dans le développement à l'international et le conseil dans cette matière. Voilà, il y a toute une série de possibilités qui s'ouvrent aujourd'hui et qui sont déjà largement exploitées par les différents aéroports, les principaux opérateurs européens, et on voit bien que ça complexifie un petit peu le débat pour dépasser ce débat idéologique public-privé.
Alors justement, approfondissons un petit peu tout cela, Frédéric Marty, parce que quand on regarde les choses en matière de gestion des aéroports, on a deux grands modèles, celui qu'on appelle de caisse unique et celui de la caisse double. En gros, dans le premier cas, le bénéfice tiré des boutiques qui pèsent de plus en plus dans le bilan financier des aéroports peut servir à financer les investissements dans les terminaux, dans les pistes d'atterrissage, etc., etc. Et dans le cas de la caisse double, les profits des activités commerciales vont directement dans la poche des actionnaires et ne servent pas au financement des investissements dans les infrastructures. Est-ce que je me trompe si je dis que globalement la privatisation pousse vers le modèle de la caisse double, et le cas échéant, comment ça se passe ? Qui assure le financement des investissements dans les capacités aéroportuaires qui sont quand même cruciales ? Frédéric Marty.
Vous touchez un point essentiel, hein, que l'articulation entre les contrats de régulation économique et le type de caisse est essentielle pour comprendre un peu l'économie du secteur. En gros, l'idée qui est derrière, c'est que si on est en caisse unique, on a les redevances aéroportuaires plus les revenus commerciaux qui vont être pris en considération dans le même ensemble. C'est-à-dire, plus j'aurai de recettes commerciales, plus les redevances pourront être réduites, ou plus il sera possible d'investir dans les infrastructures. Et la question de l'investissement est très importante. Hein. C'est-à-dire, reprenons le cas d'Aéroport de Paris. Il y a la possibilité, même par certains égards, la nécessité d'investir, mais aussi d'améliorer la qualité de service sur l'infrastructure. Hein. Donc, il y a un besoin d'investissement. Et c'est vrai que le risque, vous le soulignez très bien, si on est en caisse double, c'est-à-dire si on a le cas où, d'un côté, on a les redevances aéroportuaires qui doivent combler les coûts aéroportuaires et de l'autre, séparer les revenus commerciaux, eh bien, le risque est le risque d'une sortie de la marge vers cette seconde caisse et peut-être un cercle vicieux par lequel on augmenterait les redevances pour, d'une certaine façon, combler les besoins d'investissement.
Et qui paiera les investissements ? L'État ?
Théoriquement, ça serait indirectement l'usager. Si les redevances viennent à augmenter pour couvrir les coûts d'investissement, d'accord, ça serait répercuté dans le prix de nos billets. Mais c'est pour ça que le modèle de la caisse double est le modèle le plus intéressant pour les concessionnaires, bien évidemment. Mais on a cette tendance de préférer une caisse unique pour organiser ni plus ni moins que des subventions croisées. C'est-à-dire, si on a des recettes commerciales, elles vont subventionner. Mais vous avez aussi souligné tout à l'heure, en parlant du contrat de régulation économique, un point très important, c'est de savoir comment on va fixer ce niveau de redevance. Alors là, à nouveau, hein, c'est vraiment le rôle du régulateur. La redevance doit permettre, d'une certaine façon, de couvrir les frais d'exploitation de l'aéroport, de couvrir ses amortissements pour ses coûts fixes et de permettre d'assurer une rémunération raisonnable. Mais dans le cadre de ces contrats de régulation économique, on va d'une certaine façon discuter le niveau des redevances contrat par contrat.
Oui.
Et il y a vraiment une littérature qui est passionnante, c'est de lire les délibérations de l'autorité de supervision indépendante française sur le niveau des redevances des aéroports qui font l'objet de contrats de régulation. Mmh. On peut avoir des discussions. Alors, non pas caisse double, caisse unique, mais des mécanismes de caisse simple aménagés, alors c'est un barbarisme, c'est une sorte de formule hybride, dans laquelle on va prendre une partie des activités commerciales pour les placer à l'intérieur du secteur aéronautique. Donc vous voyez, on peut imaginer des solutions hybrides, et encore une fois, ça va dépendre du contrat de régulation.
C'est ce que prépare Charlotte Alberne, le gouvernement, un système un peu hybride. Ça sera entre la caisse unique et entre la caisse double, ou on n'en sait pas grand-chose pour le moment, c'est pas très clair.
Ça, pour le moment, c'est, je crois que ça fait encore partie des discussions. Enfin, en tout cas, ça fait partie des choses qui ont été reportées, en tout cas,
pourtant,
après.
Pourtant, c'est essentiel, en réalité.
Alors, c'est essentiel, mais ça fait justement partie. C'est peut-être là qu'on va retrouver, justement, le manque de débat, qui est souvent souligné, des manques de débat politique, qui est souvent souligné par un certain nombre de parlementaires, et qui portent justement sur le fait que ça se passe essentiellement au niveau réglementaire. C'est-à-dire qu'on va ensuite parler de ça à travers des décrets, ça va être des contrats de régulation économique, mais ce sont des choses qui vont très peu finalement faire l'objet d'un débat politique sur lequel on va pouvoir faire porter le débat sur le fond, au-delà même de la question du statut. Mais pour revenir à cette question de la régulation économique, c'est peut-être là que ça peut être intéressant de retourner à nouveau voir du côté de la Commission européenne. On l'a déjà abordé tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que en matière d'aéroport, il n'y a pas finalement une législation très développée au niveau européen. La Commission et l'Union européenne s'est plutôt centrée sur la question de la libéralisation du trafic aérien et puis elle s'est centrée sur la question du contrôle aérien. En matière d'aéroport, elle va essentiellement organiser trois choses. L'allocation des créneaux aériens, elle le fait depuis 1993, c'est-à-dire de savoir et de faire en sorte que certaines compagnies ne soient pas favorisées par rapport à d'autres, hein, dont l'accès aux créneaux les plus lucratifs. Elle va là aussi travailler sur la libéralisation des services, donc par exemple le transport des bagages, les services de sécurité au sol. Et puis, depuis 2009, elle se prononce aussi sur la question des taxes aéroportuaires. Et donc, cette directive-là, elle a été mise en place en France entre 2009 et 2014. C'est là qu'on a créé l'agence qui a été évoquée tout à l'heure par mon collègue. Et l'Union européenne fixe là un certain nombre de règles et de principes. Donc, elle donne un cadre, oui. Et c'est à l'intérieur de ce cadre que l'État français doit ensuite décider, finalement, de voir quelle option privilégier. Et c'est la non-discrimination entre les compagnies. C'est une question de transparence, deuxième principe. Et le troisième, c'est le fait d'être obligé de consulter les compagnies et les utiliser utilisateurs au sens large de la plateforme avant de fixer ces taxes.
Je voudrais qu'on fasse encore un petit jeu de comparaison avec vous, Charlotte Alberne, et puis ensuite je repasserai la parole à Frédéric Marty. Il y a un aéroport peut-être qu'on pourrait regarder de près qui vous a intéressé, c'est celui de Francfort, qui est un aéroport très important. C'est le troisième aéroport d'Europe. Il est aujourd'hui géré par une société qui s'appelle Fraport AG, qui d'ailleurs détient un certain nombre d'autres aéroports à la fois en Allemagne, mais aussi à l'étranger. Expliquez-nous comment s'est fait le processus de privatisation pour Francfort et quel modèle justement des régulations économiques. Est-ce qu'on est sur un modèle de caisse unique? Est-ce qu'on est sur un modèle de caisse double? Est-ce que c'est un modèle un peu mixte? En gros, aujourd'hui, qui paye? Alors, qui tire les bénéfices de l'activité commerciale de l'aéroport et qui assure les investissements nécessaires, quoi? Est-ce que c'est ça l'enjeu?
Alors, pour ce qui est de l'aéroport de Fraport, alors c'est un aéroport qui a été ouvert, enfin qui a été partiellement, il y a une petite ouverture, hein, c'est de 2001. Ça reste extrêmement timide, là j'ai les chiffres sous les yeux. On a à peu près 4,9% qui est consacré à un investisseur global qui s'appelle Actio Global Investors. On a la Lufthansa qui a des participations à hauteur de 9%, puis le reste c'est public. Mais ça n'est pas l'État fédéral, mais on retrouve les Länder, donc le Land de Hesse à 31%, et puis la ville de Francfort elle-même à plus de 20%. Donc on est quand même dans une configuration.
Mais donc la puissance publique est encore là. C'est pas exactement l'État fédéral, mais c'est la puissance publique quand même.
C'est ça. Et ça, c'est une situation qui reflète finalement la situation d'autres aéroports européens. Si on prend par exemple l'aéroport de Schiphol, qui est un aéroport extrêmement important, c'est le quatrième en Europe, à Amsterdam. Eh bien, là aussi, on a un groupe qui est finalement détenu majoritairement par des acteurs publics, mais pas nécessairement étatiques. On peut aussi retrouver des villes ou des régions qui vont rentrer au capital.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire que nous serions les premiers en Europe à passer dans un modèle totalement privé, en réalité?
Alors, non.
Non.
Alors, il y a le premier, enfin, le cas historique, c'est celui de Londres et des aéroports londoniens avec la privatisation.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils seront bientôt plus dans l'Union européenne.
Voilà.
Si on met les Britanniques de côté.
J'ai pas encore effectivement fait.
Non, si on les met de côté, il y en a d'autres.
Il y a effectivement d'autres aéroports qu'on va retrouver. C'est notamment ce qui s'est passé, par exemple, avec les aéroports portugais. Donc là, on retrouve une société aéroportuaire qui est organisée au niveau national, qui possède l'ensemble une large partie des aéroports du Portugal et qui, suite à la crise de 2008, c'est ce qu'on a observé par exemple dans d'autres États européens, et bien contraints par la crise, et bien il y a eu la vente d'un certain nombre d'actifs, y compris stratégiques, et qui se sont soldés par privatisation. Dans le cas du Portugal, c'est une vente à Vinci. Mais si on prend par exemple le cas espagnol, qui est souvent cité en exergue dans un certain nombre de choses que j'ai pu lire, et bien là on a aussi une ouverture partielle de capital où on retrouve finalement des capitaux publics à hauteur de 51% et puis le reste qui va être ouvert au capital. Et donc on retrouve très souvent finalement ce mixte là aussi, surtout pour des aéroports de cette taille. En fait, la question c'est pas tellement non plus public-privé en soi, mais c'est aussi de quel aéroport parle-t-on. Est-ce qu'on parle d'un aéroport comme Roissy-Charles de Gaulle par exemple, qui est le deuxième aéroport européen,
qui est quelque chose d'un énorme hub,
ou est-ce qu'on parle d'aéroports de taille peut-être plus secondaire? On est sur du 25-40 millions de passagers par an, comme par exemple Copenhague, Vienne, voilà. Ou est-ce qu'au contraire on est sur des aéroports régionaux qui eux vont servir notamment une volonté d'aménagement du territoire dont parlait tout à l'heure mon collègue. Donc en fonction de ces différents statuts, eh bien on voit que les choix qui ont pu être faits, caisse double, caisse simple, ne sont pas tout à fait les mêmes aussi en termes, parce que les perspectives en termes de rentabilité économique sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais aussi parce qu'ils ne servent pas nécessairement les mêmes objectifs en termes d'aménagement du territoire.
Frédéric Marty, qu'est-ce que tout ça vous inspire? On regarde un petit peu partout ailleurs ce qui se passe, comment on s'y prend, à la fois du côté de la Grande-Bretagne, du côté de l'Allemagne. Tout à l'heure Charlotte Alberne revenait sur l'expérience, disons ratée, de la cession des sociétés d'autoroutes. Est-ce qu'il vous semble qu'il y ait peut-être il y a d'autres expériences qui éclairent justement ce projet de privatisation?
Ben disons que pour reprendre un peu ce que disait ma collègue, il y a des points essentiels qu'on peut tirer, par exemple sur le cas de Francfort. Quand on a le cas de Francfort, on voit deux choses. Tout d'abord, une implication des collectivités locales, parce que là, comme vous indiquiez, on parle des grands hubs internationaux, mais le maillage des aéroports est bien plus diversifié. Et pour des aéroports un peu d'importance moindre en France, qui avaient été concernés par la loi de 2005, c'est-à-dire Nice, Toulouse, Lyon, on avait mis en place ce même système. À l'origine, les sociétés concessionnaires d'aéroports appartenaient à 60% à l'État, 25% aux chambres de commerce et d'industrie, et 15% aux collectivités locales. Et c'est vrai qu'on a eu ce mécanisme, j'allais dire, d'imbrication de différents acteurs publics qui permettait, par certains égards, de bien prendre en compte les différences d'intérêt. En effet, il y a une dimension, pour des aéroports qui ne sont pas des hubs internationaux, d'aménagement du territoire, de connectivité, ainsi de suite. Donc ça, c'est vrai que c'est un point très important.
Vous me tendez une perche, je ne peux pas ne pas la saisir. Vous parlez de Toulouse. 2015, l'aéroport de Toulouse-Blignac cède 49,9% des actions de la plateforme à des investisseurs chinois, avec la perspective derrière de grappiller encore 10% encore aux mains de l'État. Finalement, 4 ans plus tard, les Chinois ont décidé de se retirer et vont même revendre leur part, peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé? On a bien là les racines d'un autre fiasco, non?
Alors, fiasco, je ne sais pas, mais toujours est-il...
Ah, ils revendent 4 ans plus tard, voilà, pourquoi ?
Vous évoquiez tout à l'heure un rapport de la Cour des comptes. Il y en a un autre qui a été rendu en novembre 2018 par la Cour des comptes sur les expériences des privatisations, enfin de l'ouverture au privé des aéroports de Toulouse, Nice et Lyon.
Et qu'est-ce qu'ils disent sur Toulouse ?
La Cour des comptes montre bien que sur Toulouse, il y a eu un phénomène, j'allais dire, d'essuyage de plâtre, c'est-à-dire un apprentissage qui devait être fait en matière de sélection de l'investisseur, mais aussi de contraintes pesant sur l'investisseur en matière de réinvestissement et dans les infrastructures. Et c'est tout à fait relié à la question que vous abordiez tout à l'heure sur le contrat de régulation et sur la question de savoir comment les résultats commerciaux qui peuvent être dégagés sur l'aéroport doivent être canalisés vers l'investissement dans les infrastructures. Et ça, c'est une question qui est très importante, qui pose vraiment la question de savoir à qui on va revendre l'aéroport.
Et en l'occurrence, sur le cas de Toulouse-Blagnac, qu'est-ce qu'on a raté ?
Bien, je pense que à Toulouse-Blagnac, peut-être, alors je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne connais pas réellement le dossier, mais quelle était l'expérience de l'investisseur en matière de gestion aéroportuaire ? Voilà, la question est là. Est-ce qu'on a vendu un aéroport à un groupe qui voulait dégager une rentabilité, ou est-ce qu'on a vendu à un groupe qui était spécialisé dans la gestion des aéroports ? Et c'est peut-être ça qu'il faut voir, c'est-à-dire, je reviens au débat public privé, j'en suis désolé, mais je vais arrêter tout de suite.
Ah non, il n'y a pas de problème, allez-y.
Mais l'idée qui est derrière, c'est que si on cède un aéroport au privé, ben c'est un peu une logique de faire ou faire faire. Si on fait faire, ben il faut faire faire à quelqu'un qui est plus efficace que soi. C'est-à-dire, si on a quelqu'un qui ne sait pas manager un aéroport, le passage au privé ne créera pas, d'une certaine façon, de valeur. Et donc, c'est vraiment un point très important, c'est-à-dire, au-delà même du principe d'une ouverture du capital, se pose, du moins d'un transfert des droits de contrôle,
se pose la question de savoir à qui on vend et pourquoi, en l'occurrence, cet acteur-là cherche justement à investir à cet endroit-là.
Et ensuite, comment on va gouverner cette relation? Faisons peut-être un pas de côté, quittons un peu le domaine des aéroports pour passer à celui des gares. Il y a un contrat qui vient d'être passé à la gare du Nord, à Paris, où on a la mise en place d'un PPP, d'un partenariat privé, d'une forme un peu particulière, qui est un partenariat privé institutionnalisé, qui est une CEMOP. Alors la CEMOP, c'est une société d'économie mixte à opération unique. Et là, on a un montage qui est tout à fait différent, c'est-à-dire on a la présence d'un investisseur privé, qui est une filiale du groupe Auchan, une filiale foncière du groupe Auchan, et on a un partage des droits de contrôle, c'est-à-dire on a un partage des parts entre le public et le privé, avec les mêmes logiques, c'est-à-dire de promotion commerciale, de production de revenus additionnels, ainsi de suite, mais on a une structure de gouvernance différente. On aura le public et le privé autour de table. Donc vous voyez, on a tout un continuum de solutions qui peuvent être envisagées. Mais par contre, il y a aussi un point qui était très important dans ce qu'a souligné ma collègue. On est peut-être un peu focalisé sur les grands aéroports que sont Paris, Lyon, Toulouse, ainsi de suite. Mais c'est vrai qu'on a d'autres problèmes pour les aéroports secondaires en France, qui ont des trafics passagers qui sont très faibles et pour lesquels il n'est pas, il n'y a pas de revenus commerciaux qui pourraient permettre de mettre en place ce type de mécanisme. C'est-à-dire, en gros, il faut prendre en compte la diversité du tissu, du maillage aéroportuaire français pour voir que les problématiques sont très différentes d'un aéroport à l'autre.
On est avec vous, Frédéric Marty, Charlotte Alberne, pour parler de ces aéroports. Le grand marché dans cette série consacrée à l'aviation. Nouveau plan de vol depuis lundi. Il est 11h, presque 40 minutes. On va prendre la direction des États-Unis.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on retrouve tout de suite Jean-Christian Vinel. Bonjour. Jean-Christian Vinel, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très
bien. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, maître de conférence à l'université Paris Diderot. Lors des débats autour de la privation d'aéroport de Paris, un certain nombre de voix se sont élevées pour s'offusquer que l'on ose envisager de privatiser un aéroport, alors que aux États-Unis, le champion du libéralisme économique, les aéroports sont publics, et c'est vrai que la plupart, largement, le sont. Si on prend par exemple le cas d'Atlanta, qui est quand même l'aéroport le plus fréquenté au monde, il appartient à la municipalité de l'Atlanta, qui est absolument ravie de gérer ce monstre aéroport portuaire qui rapporte plus de 30 milliards d'euros de revenus chaque année et donc des centaines de millions de taxes pour l'agglomération d'Atlanta. Comment comprendre, Jean-Christian Vinel, que aux États-Unis, les aéroports soient publics, alors même qu'on a évidemment cette image d'un pays où tout s'achète, où tout se privatise? Comment ça s'explique historiquement, Jean-Christian Vinel?
Je crois qu'en fait, la première chose, c'est sans doute de ne pas avoir de vision trop stéréotypée des États-Unis. Et vous avez raison, souvent le fait que les aéroports sont publics aux États-Unis comme une forme de paradoxe. En fait, ce qu'on voit là, c'est avant tout le poids de l'histoire. Aux États-Unis, jusqu'aux années 30, la plupart des aéroports étaient privés. C'est au cours des années 30 essentiellement que les aéroports sont soit passés sous le contrôle du public, soit ont été financés. La construction a été financée par les instances publiques et il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est le New Deal. Un des programmes du New Deal, vous le savez sans doute, visait à développer les infrastructures aux États-Unis et on considérait que les aéroports étaient un élément important des infrastructures à développer. Donc, par exemple, la LaGuardia à New York est un aéroport qui est ouvert dès 1929, mais qui sera en fait transformé par ce programme du New Deal au cours des années 30. Et l'idée qui va subsister, c'est que pour avoir des aéroports qui accompagnent vraiment les progrès technologiques qui sont faits par les avions, le mieux est que leur construction et leur évolution soient envisagées et ensuite dirigées par la puissance publique.
Alors, c'est vrai, je le disais, la plupart sont gérés par des puissance publique, par la puissance publique, mais il y a quand même quelques expériences de privatisation d'aéroports. Je pense par exemple à Saint-Louis-Lambert dans le Missouri, que d'ailleurs Vinci voudrait bien racheter. Et je pense aussi à un autre aéroport, celui de Midway, à Chicago. Je propose de revenir sur les arguments du maire de Chicago à l'époque, qui expliquait pourquoi est-ce que cet aéroport de Midway avait été privatisé. Et ensuite, je vous interroge sur le bilan qu'on peut en faire aujourd'hui. D'abord, on réécoute donc le maire de Chicago, Rahm Emanuel.
Several years ago, the federal government, the FAA, created a pilot program for.
Il y a plusieurs années, le gouvernement fédéral, via l'Agence fédérale de l'aviation, a monté un programme pilote afin de privatiser les aéroports aux États-Unis pour une raison principale. Jusqu'alors, une loi de l'Agence fédérale stipulait que tous les revenus de l'aéroport de Midway à Chicago devait être réinvesti au sein de l'aéroport lui-même. Donc, la ville de Chicago pouvait gérer le mieux possible l'aéroport de Midway, mais sans que cela ne profite aux communautés et au reste de la ville. En privatisant l'aéroport, il s'agit de la seule et unique opportunité que nous ayons de valoriser celui-ci pour la ville elle-même.
Alors, il y a plusieurs choses qui interrogent là-dedans, mais notamment, Jean-Christophe Vinel, cette idée qu'en réalité, la privatisation va permettre à la ville, en réalité, de tirer un meilleur profit, justement, des richesses produites. Alors, j'aimerais que vous nous éclairiez là-dessus. Et puis, plus généralement, sur le bilan qu'on peut faire de cette privatisation. Jean-Christophe Vinel.
Oui, alors, ce sont deux questions, c'est vrai, qui sont distinctes. Je crois que pour les villes, et le cas de Chicago est un cas qui semble, hein, parce que je suis pas historien vraiment de l'aéronautique, mais c'est un cas qui semble assez particulier, parce que c'est une privatisation qui n'a pas fonctionné. Elle s'est heurtée d'abord aux conséquences de la crise économique, de la crise financière, hein, qui a débuté en 2008, et ensuite au manque d'investisseurs. Donc c'est une privatisation qui a été abandonnée. Il me semble que pour les villes, il y a évidemment des revenus indirects qui sont liés à l'activité économique. Les partisans de la privatisation voient avant tout dans la privatisation un trafic aérien qui pourrait augmenter et une plateforme qui serait plus attractive. Donc il pense, je crois avant tout en termes de concurrence. Le management public des aéroports aux yeux des gens qui défendent la privatisation, hein, donc des néolibéraux, est vu comme une entrave en fait au progrès, à la productivité et à l'innovation.
C'était en tout cas effectivement la vision du maire de Chicago qu'on entendait à l'époque. Ouais. Alors si on revient à aujourd'hui, Jean-Christian Vinel, vous nous avez dit combien évidemment ces aéroports avaient une dimension stratégique et combien on tenait finalement à ce que la puissance publique ait la main sur ces objets-là. Mais c'est vrai que ces derniers mois, il y a eu un certain nombre de rumeurs concernant de possibles privatisations d'infrastructures aéroportuaires aux États-Unis. On en a parlé à propos des aéroports Reagan et Dulles à Washington. Donald Trump vient d'annoncer là qu'il serait candidat à sa succession. On vient de lancer sa campagne à Orlando et c'est pas franchement un responsable politique qui a des tabous. Il l'a prouvé depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à briser précisément ce tabou et lancer un mouvement de privatisation des aéroports aux États-Unis?
Ouais. Alors, étant historien, je m'aventure rarement à dire ce qu'il va se passer. Nous, notre travail est avant tout d'essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement.
Regardons le passé justement, et prenons un autre néolibéral, Reagan par exemple.
Voilà. Alors, c'est ce que j'allais essayer. En fait, il y a deux choses qu'on peut faire. C'est déjà essayer de voir les résistances à la privatisation, puisque effectivement, cette volonté de privatiser les aéroports, elle s'inscrit plus largement dans ce qu'on peut voir comme le logiciel néolibéral, hein, qui est celui du parti républicain, au moins depuis. Les années 70 et certainement depuis les mandats de Reagan. C'est vrai que si on regarde ce qu'ont tenté de faire les Américains, les conservateurs américains, on voit qu'en fait la privatisation des aéroports ce n'était pas la priorité. Hein. Ils se sont plutôt intéressés, par exemple, à la sécurité sociale ou des choses qui sont plus centrales. Mais il me semble qu'il y a des résistances dans le cas des aéroports qui sont fortes. Et les premières résistances sont celles des compagnies aériennes. Mmh. Qui ne voit pas forcément d'un bon œil la privatisation parce que elles ont des accords avec les aéroports, elles ont des portails qui leur sont réservés et elles craignent en fait, en tout cas c'est ce qu'on lit, hein, d'être sans doute peut-être victime d'une concurrence exacerbée dans des aéroports qui seraient totalement privatisés. Le deuxième élément, c'est vrai qu'historiquement, on a eu tendance aux États-Unis à penser que les aéroports relevaient d'un service public. C'est aussi parce qu'en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les aéroports publics sont utilisés également par l'armée. Il y a ce qu'on appelle les enclaves militaires dans certains aéroports, et on les voit effectivement comme des enjeux stratégiques, simplement parce que ça permet de projeter, voilà, à la fois des forces et du matériel de manière plus efficace.
Et alors, par exemple, justement, Ronald Reagan, un néolibéral s'il en est, n'avait pas remis en question justement cette représentation. Il n'a pas lancé, lui, de grands mouvements de privatisation des aéroports américains.
Non, il y a une commission sur la privatisation qui est mise en place pendant le premier mandat Reagan et qui est très très décevante en fait. Hein. Ses conclusions sont très décevantes aux yeux des partisans, voilà, de la privatisation. Historiquement, en fait, la droite américaine s'est heurtée à deux obstacles lorsqu'elle a souhaité orchestrer le retrait de l'État. D'une part, le premier obstacle, ça a été le fait que les Américains étaient attachés à certains programmes publics, notamment certains programmes sociaux, hein, même si un grand nombre d'entre eux ont vraiment été remis en cause. Les programmes sociaux qui profitent aux classes moyennes, Reagan s'en est aperçu rapidement, il était très difficile de les remettre en cause. Le deuxième élément, c'est que parfois c'est difficile en fait d'orchestrer le retrait de l'État parce qu'il faut organiser, voilà, quelque chose, il faut une alternative. Le meilleur exemple pour les aéroports, ce serait la grève des aiguilleurs du ciel en 1981, qui est une grève d'agents publics qui est illégale puisque les agents publics fédéraux n'ont pas le droit de grève aux États-Unis. Reagan va licencier plus de 9000 aiguilleurs du ciel, hein. Et pourtant, à ce moment-là, certains conservateurs se disent, mais on pourrait peut-être créer, en fait, un ensemble, voilà, un groupe des gueurs du ciel qui relèverait du privé. Et ça n'est pas ce qui a été fait. On va engager de nouveaux aiguilleurs du ciel, on va les former, ça va être très coûteux. Beaucoup plus coûteux qu'en fait les réengager ceux qui ont été licenciés une fois le mouvement et la grève brisés.
Mais ils sont toujours des fonctionnaires publics aujourd'hui. Ils sont toujours des fonctionnaires publics aujourd'hui. Et d'ailleurs, au début de l'année, au moment du shutdown, c'est eux qui avaient fait plier Donald Trump en réalité. Peut-être un tout dernier mot, Frédéric Marty, pour réagir à cet exemple états-unien depuis Nice. Frédéric Marty.
Oui, il y a deux choses essentielles qui ont été dites. Tout d'abord, c'est pour les États-Unis la notion que l'aéroport est considéré comme une, je vais parler anglais, hein, prenez garde, une activité affected with public interest. C'est-à-dire, d'une certaine façon, un service public, ça a été bien dit, un intérêt stratégique qui fait qu'on ne perd pas le contrôle. Donc ça, c'est une dimension qui est très importante. Et c'est vrai que souvent on caricature avec les États-Unis, se disant c'est le monde du néolibéralisme, donc c'est le privé pur. En réalité, non, l'État est toujours là. Deuxième point essentiel qui a été dit, c'est l'interaction entre la privatisation des aéroports et l'activité du transport aérien elle-même. C'est-à-dire on a des intérêts de compagnies qui ne sont pas les mêmes, suivant qu'il s'agisse de compagnies historiques ou de compagnies à bas coût qui entrent sur le marché. Et là, on rejoint ce que disait ma collègue sur la question des slots, sur l'absence de discrimination, ainsi de suite.
Et il faut protéger, évidemment, ces compagnies. Charlotte Albert, on arrive presque au terme de cette émission en guise de conclusion.
Alors, je crois que ce cas états-unien, il montre bien la façon dont on peut envisager, en fait, la montée au capital, par exemple, de collectivités territoriales dans la gestion de ces aéroports. Si on prend tout simplement le cas de Francfort ou d'Amsterdam, Amsterdam, il y a eu un échec de privatisation en 2006, et ça, qui était porté par la ville d'Amsterdam, qui a refusé cette proposition du gouvernement, et c'était au nom de cette gouvernance territoriale des aéroports, sur des sujets dont on a très peu parlé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la question de l'insertion territoriale de ces grandes infrastructures extrêmement stratégiques, mais qui sont néanmoins productrices de nuisances, et cela fait partie là aussi d'une manière pour une collectivité d'intégrer cette infrastructure dans la gestion de sa mobilité, de ses différentes politiques, et c'est peut-être l'une des pistes à envisager.
Nul doute en tout cas que ces sujets vont être sur la table là dans les prochains mois. Merci beaucoup à tous nos invités, Jean-Christian Vinel qui était à l'instant avec nous par téléphone, qui est maître de conférence à l'université Paris Diderot, qui est historien. Un grand merci à vous, Charlotte Albert, de nous avoir accompagnés ce matin. Vous êtes chercheuse au Centre d'études européennes et de politique comparée à Sciences Po. Et puis je remercie également Frédéric Marty qui était avec nous en duplex de Nice, qui est chargé de recherche au CNRS et à l'université Côte d'Azur. Et je remercie d'ailleurs les techniciens qui à Nice ont permis de faire ce duplex. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous fêtez un anniversaire aujourd'hui, 50e anniversaire d'un livre culte. Lequel ?
Il y a 50 ans, Billy Pilgrim décollait du temps et naissait un des romans classiques du XXe siècle, Abattoir 5. Publié en 1969, ce roman catapulta son auteur, Kurt Vonnegut, âgé de 47 ans, directement dans le courant populaire et littéraire. En parlant directement, de manière poignante, aux anxiétés de la génération de la contre-culture, du progrès technologique, de la guerre du Vietnam et de l'holocauste nucléaire. Ainsi commence l'article que vient de publier la revue The American Interest à l'occasion de la réédition en coffret aux États-Unis des œuvres de Kurt Vonnegut disparues en 2007. Alors l'auteur de l'article en question, Daniel Kennelly, crédite l'auteur d'Abattoir 5 d'avoir écrit, je cite, « un roman post-moderne » puisque son premier chapitre nous livre la vie, fort négatif, de Vonnegut sur son propre ouvrage. Et c'est vrai qu'à l'époque, il a paru surprenant d'entamer un roman de science-fiction par une déclaration liminaire de l'auteur précisant ses intentions et confessant, qui plus est, avoir raté son affaire. Je cite Vonnegut. On n'a pas idée de regarder en arrière, en conclusion de ce chapitre d'introduction, donc qui n'est pas une préface. Hein. On n'a pas l'idée de regarder en arrière. Je ne recommencerai jamais, vous pouvez m'en croire. J'ai maintenant terminé mon bouquin de guerre. Le prochain que j'écrirai sera plus amusant. Celui-ci est raté, c'était prévu. puisqu'il est l'œuvre d'une statue de sel. Fin de citation. Kurt Vonnegut vient de faire référence à la femme de Lot qui, dans la Bible, se retourne pour contempler les villes de Sodome et Gomorre sur lesquelles l'Éternel vient de faire tomber le feu du ciel. Lorsqu'on échappe à un tel cataclysme, il est impossible de ne pas regarder derrière soi, mais voilà, cela paralyse. Alors, se demande l'auditeur, roman de science-fiction ou roman de guerre? Eh bien les deux, et c'est ce qui fait l'un de ses intérêts. À l'origine, Vonnegut voulait témoigner littérairement de ce qu'il a vécu dans la ville de Dresde, où, par le plus grand des hasards, il se trouvait lui en tant que prisonnier de guerre américain lors du bombardement de la ville par les Alliés du 13 au 15 février 1945. Mais comme d'autres témoins d'une horreur indescriptible, il aperçut alors les limites de la littérature.
Et d'où le détour par la science-fiction.
Eh oui, le héros d'Abattoir 5, Billy Pilgrim, Billy Pèlerin, donc, ne cesse de dériver dans le temps. Il est contraint de sauter constamment d'un épisode à l'autre de sa propre existence au hasard des époques. Alors à certains moments, Billy se marie, à d'autres, il prend place dans un avion qui va s'écraser. Mais constamment, il est ramené à ce moment de la fin 1944 ou au cours de la bataille des Ardennes, avec un groupe de soldats américains perdus comme lui, il est fait prisonnier par les Allemands. À d'autres moments du roman, il est exhibé tout nu comme une espèce d'animal de zoo dans une lointaine planète qui s'appelle Tralfamador. Alors les Tralfamadoriens sont des êtres très supérieurs aux humains, qu'ils considèrent d'ailleurs comme des bêtes curieuses et malfaisantes. Ils disposent notamment d'une vision panoramique du temps, ils savent ainsi tout du passé comme du futur. Ainsi connaissent-ils, Florian, avec précision, la date de la fin de l'univers. Elle sera provoquée non pas par les guerres absurdes auxquelles se livrent régulièrement ces imbéciles de terriens, mais par un accident lors de l'essai d'un nouveau combustible alimentant leur propre soucoupe volante. Alors, si vous êtes au courant, interroge Billy Pilgrim, n'y a-t-il pas moyen de prévenir ce désastre? Comment dissuader le pilote de mettre le doigt sur le bouton? Réponse du sage Tralfamadorien. Son doigt est dessus depuis toujours et il demeurera à jamais. Cela fait partie de la structure même du temps. Le même sentiment de fatalité fait monter Billy Pilgrim dans l'avion qui va s'écraser. Il sait qu'il s'écrasera, mais il ne veut pas être pris pour un imbécile en prédisant l'accident. Et lorsqu'il se réfugie dans l'abattoir de Dresde, d'où la viande a disparu pour cause de guerre, la fatale nuit du bombardement, il sait, grâce à ses souvenirs, je cite, que la ville sera réduite en miettes avant de flamber. Vonnegut a été traumatisé pour la vie par les horreurs qu'il a vues à Dresde. Les Allemands ont forcé leurs prisonniers américains à extraire un très grand nombre de victimes de leur propre bombardement, donc des caves où leurs corps avaient brûlé, ou même d'un château d'eau où des adolescentes avaient bouilli. Ce n'est que le lendemain à midi qu'on put sans danger quitter les abris. Quand les Américains et leurs gardes allemands revinrent à la surface, la fumée noircissait le ciel, le soleil était une petite tête d'épingle rageuse, Dresde rappelait la lune, un paysage exclusivement minéral, les pierres étaient bouillantes, personne n'avait réchappé dans le paysage, ainsi vont les choses. À l'époque de la parution d'Abattoir 5, tous les lecteurs saisirent l'allusion au bombardement américain au napalm sur le Vietnam. Les Tralfamadoriens, c'est nous, commente l'essayiste Daniel Kennedy. Nous construisons des bombes atomiques. Pourquoi? Parce que, prétendons-nous, si nous ne le faisons pas, d'autres le feront. Ce roman retrouve une actualité nouvelle. Comme Billy Pilgrim, nous avons envie d'avertir les autres, ne montez pas dans cet avion, mais nous ne le faisons pas.
Voilà, nous sommes tous des Tralfamadoriens. Merci beaucoup.
C'est paru aux éditions du Seuil Collection Point.
Abattoir 5, donc voilà une lecture. Hein, la pause estivale arrive bientôt. voilà un livre sur lequel évidemment les auditeurs doivent se pencher. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture.